Il est 7h.
Elle a pris du Plaquenil parce qu'il lui en restait d'une ancienne hospitalisation. On lui en avait prescrit beaucoup, beaucoup de patients. Comme ils ont du Plaquenil et qu'ils se disent qu'apparemment, peut-être, ça peut guérir, bah, il le prend.
Le Plaquenil à consommer avec beaucoup de modération sur prescription médicale, surtout pas en automédication. C'est l'avertissement lancé par les autorités de santé. Les effets indésirables peuvent être graves et même mortels. En Guadeloupe, la justice donne raison au syndicat UGTG. L'État va devoir passer commande de tests de dépistage et de chloroquine. Nous appellerons son dirigeant, Elido Motta. Trop peur d'attraper le virus ou de donner du travail supplémentaire aux soignants, les Français se rendent nettement moins aux urgences.
Il y a de toute évidence des retards de prise en charge pour un certain nombre de patients qui ont peur de venir à l'hôpital ou qui, de manière très très citoyenne, ne veulent pas nous déranger.
Dans ce journal, l'arrivée des premiers bulletins de paie tenant compte du chômage partiel. Et puis, vous connaissez Zoom, c'est l'application qui a un succès fou en ce moment pour garder le contact à distance avec ses proches en visioconférence. Les seniors s'y mettent aussi.
On est très content de pouvoir utiliser ça, hein, parce que un petit clin d'œil de se voir, c'est sympa.
Votre invité à 7h40, Mathieu.
Le coronavirus et ses effets dramatiques en Espagne, la solidarité européenne aussi. Arantxa González-Laya, ministre espagnole des Affaires étrangères, est sur Europe 1 ce matin à 7h40. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Plaquenil, mais aussi Caletra. Les noms de ces médicaments vous sont sans doute devenus familiers, mais attention, ne les prenez pas sans avis médical. C'est l'appel lancé hier soir par l'Agence du médicament, très demandé en pharmacie pour lutter contre le coronavirus. Leurs effets secondaires peuvent être graves, ce qui inquiète les autorités. Mathieu Charrier.
Plusieurs enquêtes poussées sont en cours, mais une chose est sûre, les 4 patients admis en réanimation parce qu'ils ont pris du Plaquenil sans avis médical se multiplient. 30 malades qui ont développé des effets secondaires suspects sont même à l'étude, selon l'Agence du médicament. Et il y a même des investigations en cours sur 3 patients décédés. Car le risque majeur, lorsque l'on prend du Plaquenil, par exemple, en automédication, c'est l'infarctus. Or, ce médicament, jusqu'à janvier dernier, pouvait être acheté sans ordonnance, notamment pour se protéger du paludisme. Il en reste donc dans les pharmacies des Français qui, pour certains, depuis les déclarations du professeur Raoult, en prennent d'eux-mêmes. Olivier est médecin régulateur au SAMU des Hauts-de-Seine. Hier encore, il a reçu cet appel.
C'est une patiente jeune qui appelait parce qu'elle était très angoissée, parce qu'elle pensait avoir le coronavirus et que depuis 24 heures, elle avait des palpitations, donc elle sentait son cœur battre. Et donc, elle me raconte qu'entre autres, elle a pris du Plaquenil parce qu'il lui en restait d'une ancienne hospitalisation, on lui en avait prescrit. Et comme elle avait entendu dans les médias que peut-être ça pouvait être un traitement, bah elle en a pris d'elle-même. Beaucoup, beaucoup de patients, comme ils ont du Plaquenil et qu'ils se disent qu'apparemment peut-être ça peut guérir, bah ils le prennent.
D'où ce rappel des autorités de santé. Les effets de l'hydroxychloroquine pour soigner le Covid-19 ne sont toujours pas prouvés. Des tests sont en cours et sa prescription reste donc réservée aux cas les plus graves et dans un cadre hospitalier.
Le Plaquenil, c'est donc le fameux médicament qui contient de la chloroquine. La Guadeloupe va justement en recevoir sur l'île qui compte peu de lits de réanimation. Une centaine de cas ont été répertoriés pour l'instant, 5 décès. L'État va devoir commander des tests de dépistage et des doses de traitement. C'est une décision de justice qui vient de donner raison au syndicat local UGTG.
Bonjour Elido Motta.
Bonjour.
En direct de Guadeloupe ce matin, vous êtes à la tête de l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe. La justice, dans sa décision, reconnaît des carences du système de santé sur place, chez vous, en Guadeloupe. Quelle est la situation? Décrivez-la, s'il vous plaît. Quelles sont les conditions sanitaires aujourd'hui en Guadeloupe dans cette crise du coronavirus?
Vous savez, depuis novembre 2017, il y a eu un incendie au CHU. Et donc, nous sommes dans une situation sanitaire dégradée, marquée par une situation financière catastrophique, par un manque d'effectifs. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, le CHU n'est pas en mesure de faire face à cette pandémie. Et pour nous, aujourd'hui, vu l'urgence sanitaire, vu la dégradation des services de santé en Guadeloupe, vu l'état de santé général de la population guadeloupéenne, il est normal d'anticiper. Et pour nous, la décision du tribunal, c'est avant tout une anticipation, un bon sens pour tenir compte de la réalité.
Dépistage, chloroquine, peut-être d'autres matériels, mais après, Elido Motta, est-ce que le problème est plus large? Est-ce que, je vous pose clairement la question, est-ce que l'outre-mer a été oublié par l'État français face au coronavirus?
savez, quand on regarde, je crois que ce n'est pas simplement l'outre-mer qui a été oublié. Le gouvernement a carrément n'est pas dans l'anticipation, n'est pas dans la prévention. Et quand monsieur le président de la République, monsieur Macron, parle d'envoyer un navire de guerre dans nos eaux, il oublie simplement que c'est un archipel d'îles et qu'il y a des milliers de kilomètres à parcourir et qu'en aucun cas ce bâtiment de guerre ne pourra apporter aucune aide, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, car il ne pourra pas être présent dans nos eaux.
Merci beaucoup, Élie Domota. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin, ce soir pour vous, en l'occurrence en Guadeloupe. Secrétaire général de l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe. J'insiste, c'est question de territoire aussi et de répartition de l'effort national. Nous les poserons à Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, qui sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 ce matin, et puis qui échangera avec vous, alors Corse ou pas Corse, vous n'hésitez pas, vous composez le 3921, vous écrivez sur le hashtag Radio Ouverte, puisque ces questions, elles peuvent concerner aussi d'autres territoires. Vous serez en direct avec nous, vous échangerez avec Jean-Guy Talamoni.
Et puis un mot pour dire que 3 internationaux français de foot, tous originaires de Guadeloupe, Kingsley Coman, Thomas Lemar et Anthony Martial, annoncent qu'ils vont faire un don au CHU de Guadeloupe pour lutter contre le coronavirus.
Plus de 3000 décès à l'hôpital, 418 ces dernières 24 heures. C'est la plus forte hausse jusqu'ici, plus de 5000 malades en réanimation. Voilà pour les chiffres annoncés hier soir. On parle beaucoup des hôpitaux saturés, mais dans le même temps, les admissions aux urgences hors Covid-19 sont en chute libre, moins 53% en moyenne.
Et oui, il y a l'effet confinement, moins d'accidents de la route, moins d'infarctus, mais pas seulement. Les malades ont peur d'aller aux urgences et se font parfois soigner trop tard. Le professeur Patrick Goldstein est chef des urgences et du SAMU de Lille.
Ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a des patients qui devraient venir aux urgences ou qui devraient appeler le 15. Il y a une diminution du nombre d'accidents vasculaires cérébraux. Il est difficile actuellement de comprendre exactement les raisons de cette baisse d'accidents vasculaires cérébraux. Peut-être que des patients restent chez eux, chez des patients à facteurs de risque coronariens, des syndromes coronariens aigus, voire de véritables infarctus qui font appel à nos services 48 heures après la première crise douloureuse, c'est-à-dire au-delà de toute possibilité de reperfusion. On a vu des jeunes gens arriver avec des péritonites alors qu'au départ c'était des appendicites. Il y a de toute évidence des retards de prise en charge pour un certain nombre de patients qui ont peur de venir à l'hôpital ou qui, de manière très très citoyenne, ne veulent pas nous déranger. Mais il y a de vraies urgences. Les services d'urgence continuent à fonctionner. Les SAMU fonctionnent pour autre chose que le Covid-19. Et dès que l'on a des antécédents ou qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de grave, il faut immédiatement appeler.
Voilà, conseil donné par le professeur Goldstein, joint par Mathieu Bock. Emmanuel Macron est attendu ce matin dans la périphérie d'Angers. Le chef de l'État va visiter l'usine de masques de la PME Colmy Open à Saint-Barthélemy d'Anjou. C'est le plus important des 4 producteurs français. Le site fonctionne désormais 24 heures sur 24. Il faut dire que les besoins sont énormes. 40 millions de masques par semaine pour le personnel soignant. Un quart des 10 000 marchés alimentaires de France rouvrent cette semaine, sous conditions sanitaires strictes évidemment. La grande majorité dans de petites communes avec moins de 10 commerçants, mais aussi à Lille, Rennes, Clermont-Ferrand ou Grenoble. Aucune dérogation en revanche pour Paris.
7h08 sur Europe 1, plus de 500 000 entreprises de moins de 50 salariés ont demandé à bénéficier d'un report de charges sociales en mars. Des entreprises en difficulté qui ont souvent recours au chômage partiel. Mais ça veut dire quoi sur une fiche de paye?
Oui, si par exemple on travaille dans un restaurant, chez un coiffeur ou dans un magasin de vêtements, des commerces qui ont dû fermer depuis la mi-mars, les premiers bulletins arrivent donc ces jours-ci, Olivier Samin.
Deux lignes nouvelles sur le bulletin et un net à payer tout en bas, moins élevé qu'au mois de février. Voilà ce que commencent à découvrir les salariés mis en chômage partiel dès la mi-mars. Les deux lignes, c'est d'abord en haut du bulletin, juste en dessous du salaire brut, le montant qui est soustrait au titre de l'absence pour chômage partiel. Et puis, deuxième ligne, un peu plus bas, l'indemnité d'activité partielle qui, elle, est ajoutée. Indemnité égale à 84% du salaire net et même à 100% si vous êtes au SMIC. Qu'est-ce que ça donne tout en bas, à la ligne nette à payer avant prélèvement à la source? Eh bien, on va prendre l'exemple de 2 salariés d'une même entreprise. Un commerce, par exemple, qui a été contraint de baisser le rideau le 16 mars. Les 2 salariés ont travaillé normalement la première moitié du mois et ils n'ont pas travaillé du tout la deuxième moitié. Le premier, payé au SMIC, va voir son salaire net diminuer de 44 euros. Le deuxième, payé 2 000 euros brut par mois, subira, lui, une perte de 148 euros.
Voilà pour les salariés. Si c'est votre cas, d'ailleurs, vos témoignages, vos questions au 39-21. Notez bien que pour les TPE et les indépendants qui ont besoin de faire valider une perte d'activité, vous allez avoir quelques conseils très pratiques d'Anis Mbida après ce journal.
Et puis depuis hier, les particuliers employeurs peuvent utiliser le chômage partiel pour leurs salariés à domicile. La France est le seul pays confiné au monde à mettre en place cette mesure de soutien à l'ensemble de ses salariés.
L'aéroport d'Orly ferme ses portes tout à l'heure à minuit pour une durée indéterminée. Augustin de Romanet, le patron d'ADP, était mon invité à 6h40. Il chiffre les pertes à 1 milliard d'euros depuis le début de la crise.
Fini les travaux parlementaires. En revanche, les questions au gouvernement sont maintenues. Elles vont se tenir cet après-midi à l'Assemblée avec seulement 9 députés dans l'hémicycle, un par groupe parlementaire.
Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
On sait, on le sait, vous nous l'avez déjà raconté, on sait qu'Emmanuel Macron pense déjà à l'après-coronavirus. À droite aussi, on fourbit ses armes pour la sortie de crise, à condition toutefois que le président ne vienne pas proposer l'union nationale à la classe politique. Pour quelle raison ?
Parce que tout simplement, elle ne saurait pas quoi répondre. Hein. Ce serait un vrai dilemme, m'a confié un élu influent de droite qui m'a expliqué que la question avait été au menu d'un déjeuner au sommet il y a quelques jours. Officiellement, l'opposition de droite a mis ses critiques en veilleuse depuis le début de la crise, mais attend impatiemment la fin du confinement pour demander l'ouverture d'une commission d'enquête sur la gestion de l'épidémie par le gouvernement. Si Emmanuel Macron proposait l'Union nationale, eh bien ce serait impossible de lui refuser et de ne pas participer au redressement du pays. D'autant que l'on considère à droite que le chef de l'État est seul, que son gouvernement sera épuisé après l'épidémie et qu'il faudra renouveler les équipes. Dans ce cas, il sera difficile de lancer une candidature face à Emmanuel Macron en 2022 pour l'élection présidentielle. L'Union nationale serait donc un piège pour la droite. On le voit, malgré la crise sanitaire, la politique continue.
C'était le fait politique du jour avec Mickaël Darmon.
Aux États-Unis, pays qui compte le plus grand nombre de cas confirmés, l'épidémie s'accélère dans la région de New York, mais aussi en Louisiane, en Floride, dans l'Illinois et dans le New Jersey.
Et désormais à New York, tout le sommet de l'Empire State Building est éclairé en rouge avec une lumière qui tourne comme un gyrophare en hommage aux soignants. Donald Trump a discuté hier avec Vladimir Poutine de la pandémie, mais surtout de la dégringolade des prix du pétrole au plus bas depuis 2002. Ils se sont mis d'accord sur l'importance de la stabilité dans le marché international de l'énergie.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Le prix du pétrole s'effondre, conséquence d'une planète économique à l'arrêt. C'est votre éclairage éco ce matin, au point qu'on ne sait même plus comment stocker la production.
Oui, car arrêter un puits de pétrole, c'est un peu plus compliqué que de fermer un robinet. Du coup, même si les prix s'effondrent faute de demande, les producteurs continuent de pomper. Et à moins de 20 dollars le baril, le prix actuel, certains producteurs perdent de l'argent par rapport au coût d'extraction. Mais ils préfèrent vendre leur or noir à perte plutôt que d'arrêter des puits, parce que c'est une opération complexe sur le plan technique. Et surtout, ça coûte cher ensuite de redémarrer un puits qui a été arrêté. Du coup, que se passe-t-il ? On continue à pomper. Et comme la demande s'écroule, on stocke ce pétrole.
Mais on ne peut pas stocker indéfiniment, Nicolas.
Eh bien non, c'est tout le problème. Les capacités de stockage mondiales seront bientôt saturées. Et pour vous dire à quel point le monde marche sur la tête, on s'attend même à ce que certains producteurs, pour ne pas avoir à supporter le coût de l'arrêt d'un puits, payent des acheteurs pour qu'ils les débarrassent de leur surplus de pétrole. Le prix du baril deviendrait ainsi, en quelque sorte, négatif. Ce serait cadeau. En attendant, cette situation est dramatique pour bon nombre de producteurs. Un pays comme l'Algérie, par exemple, voit ses recettes pétrolières s'effondrer. La Russie et l'Arabie Saoudite subissent un plongeon de leur rentrée de devises et les États-Unis s'attendent à des faillites en chaîne des producteurs de pétrole de schiste. Cette crise est tout simplement inédite.
Et vous nous la racontez aussi le matin, Nicolas Barré, l'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les jours dans le journal de 7h d'Europe 1. Si l'économie mondiale connaît un sérieux coup de frein, certains secteurs profitent de la crise, notamment ces outils de visioconférence.
Oui, jusqu'ici on les utilisait surtout pour le travail à distance, mais ils sont entrés dans notre quotidien pour les apéros, les anniversaires ou autres réunions de classe virtuelle. L'application Rennes, c'est Zoom. En 2 mois, la valeur de l'entreprise a doublé pour atteindre quasiment celle d'Uber. À tous les âges, tout le monde s'y met, Clément Le Saffre.
On est très content de pouvoir utiliser ça, hein, parce que un petit clin d'œil de se voir, c'est sympa.
C'est sur Zoom que j'ai discuté avec Marcel et Lucien, respectivement 82 et 84 ans. Ils ont utilisé l'application pour la première fois ce week-end pour un apéritif virtuel avec leurs amis du club de marche.
Chacun prenait l'apéritif chez soi. On a fait chin-chin avec nos verres et on s'est raconté un peu notre semaine.
Et maintenant que vous l'avez utilisé, vous avez envie de recommencer ?
Oui, les petits-enfants sont un peu dispersés. On va faire une réunion de famille, justement.
Et avec 2 millions de téléchargements par jour dans le monde, 10 fois plus qu'il y a un mois, Zoom connaît un succès fulgurant, notamment car il n'est pas nécessaire pour s'en servir d'avoir une excellente connexion Internet, explique Loïc Rousseau, directeur de Zoom France.
Notre technologie permet de ne pas être gourmand en bande passante. Donc si vous avez des amis dans une région un peu isolée et qui n'a pas énormément de réseau, va pouvoir facilement se connecter.
Mais attention, le succès de Zoom donne des idées aux hackers. Faux sites, fichiers malveillants, l'application est particulièrement ciblée depuis une semaine. Vérifiez donc bien que vous téléchargez la bonne intitulée zoom.us.
Et on se fait un zoom quand vous voulez, Mathieu.
Bah
ça
oui.
Fait un moment que je vous ai pas vu.
Maintenant, on ne se voit plus qu'en visioconférence et on a tous fait un saut technologique. On a appris plein de choses technologiquement pour pouvoir se parler et continuer à voir ses amis, bien sûr. Je suis sûr que c'est le cas de nombre de nos auditeurs, Hélène, et ils vont nous le dire au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Merci Hélène, un nouveau journal à 7h30 avec Jérôme Lacroix, il est 7h15.
Mathieu Béliard.
Et comme tous les matins, les questions que vous posez, et que vous adressez au médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu.
Nadine est dans les Deux-Sèvres. J'ai un calcul dans la vessie. On me dit de regarder ma température et ma vessie, si problème, de venir aux urgences pour me faire opérer. Comme on voit que les blocs opératoires sont fermés, que dois-je faire si mon calcul s'aggrave ?
Eh bien, il faudra simplement respecter les consignes qui vous ont été données. Et attention, puisqu'effectivement, nous concentrons toute notre énergie sur le coronavirus et on a l'impression que les autres maladies sont en pause, que les autres maladies prennent des vacances. Or, ce n'est pas le cas. Pour Nadine et finalement pour les autres, si on vous dit de venir à l'hôpital pour une raison X ou Y, il faut venir, les blocs opératoires, on a dit qu'ils étaient en pause, qu'ils étaient fermés dans le cadre du plan blanc, mais ils sont fermés pour réquisitionner les respirateurs dont vont avoir besoin les malades, notamment en réanimation, vu que les lits vont être saturés. En revanche, il y a des blocs opératoires d'urgence qui fonctionnent, puisque comme on l'a dit, les maladies ne prennent pas de vacances, les accidents de la route, même s'ils sont en diminution, il y en a toujours, et donc si jamais il faut vous opérer en urgence, que ce soit pour un calcul ou n'importe quelle autre opération, des chirurgiens sont présents, des blocs opératoires sont présents, des anesthésistes sont là, des salles de réveil sont présentes. Donc il faut absolument respecter les consignes. Donc si Nadine a de la fièvre, puisque lorsqu'on a un calcul, on n'aime pas avoir de la température car on pense qu'il y a risque d'infection majeure, il faut vous présenter aux urgences, vous serez pris en charge.
Voilà pour Nadine. Hélène nous écrit sur le hashtag Radio Ouverte, combien de temps sont contagieux les porteurs sains ?
Eh bien ça, on n'en sait strictement rien. On pense qu'au maximum, lorsqu'on a la maladie, on est contagieux 14 jours, avec des extrêmes qui peuvent aller de 3 à 14 jours. En moyenne, ce serait 7 jours. Il faut rappeler qu'un porteur sain, c'est une personne dont l'organisme est infecté par le virus ou finalement un autre, mais qui ne présente pas de signes de la maladie. On dit qu'elle est asymptomatique, elle resterait contagieuse. Et c'est particulièrement vrai pour les enfants, les adolescents, les jeunes adultes. On considère que lorsqu'on a le coronavirus, on va contaminer en moyenne 3 personnes autour de nous. Cependant, on pense quand même que le porteur sain serait moins contagieux par rapport à quelqu'un qui a des symptômes, puisque normalement on a du virus, on doit excréter dans les gouttelettes, c'est-à-dire tousser, éternuer du virus et à ce moment-là transmettre la maladie. Donc il y a une étude qui est en cours pour savoir est-ce que les porteurs sains sont contagieux, pendant combien de temps sont-ils contagieux ? Une étude sur 300 malades où on va faire des prélèvements dans le nez pendant 14 jours pour évaluer leur charge virale. Donc pour l'instant, on ne sait pas exactement combien de temps, ni à quel degré. On a parlé de certains patients qui seraient super excréteurs, qui vont contaminer plein de personnes autour d'eux, et puis d'autres qui contamineraient un peu moins de patients, notamment les enfants.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed, le docteur Jimmy Mohamed qui répond à vos questions tous les matins sur Europe 1 juste après le journal de 7h, toutes les heures tout au long de la journée sur ce que l'on a appelé désormais la radio ouverte. Vos questions 3921 et le hashtag radio ouverte 7h18.
Europe 1.
On connaissait le correcteur orthographique, voilà le correcteur grammatical. Bonjour Anis Mbida.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'innovation avec vous tous les matins et ce nouvel outil qui arrive sur les traitements de texte, le détecteur de plagiat. Selon vous, ça devrait plaire aux étudiants ?
Oui, et encore plus en ce moment, puisque tous les devoirs et toutes les dissertations se font à distance désormais. Et je trouve que c'est même un coup dur pour les profs, parce que le détecteur de plagiat jusqu'ici, c'était un peu leur prérogative. Ça permettait de repérer tout de suite ceux qui sont contentés de faire des copier-coller sur Internet. Sauf que la fonction va être intégrée dans Word. Elle sera même doublée d'un outil qui reformule automatiquement les phrases. Donc ça sera encore plus facile de s'attribuer les idées ou le texte de quelqu'un d'autre. Et en plus, ça ne concerne pas que les étudiants d'ailleurs.
C'est du beau, c'est du beau. Ça veut dire qu'une nouvelle version de Word arrive, c'est ça ?
Oui, oui, et c'est même une nouvelle version de la suite Office 365. Hein, c'est le qui va changer de nom et s'appelait Microsoft 365. Et il y a pas mal de nouveautés. Hein, Excel, le tableur, par exemple, pourra se connecter directement à notre banque et importer les relevés pour faire des statistiques, par exemple. PowerPoint va intégrer un coach pour rendre les présentations un peu moins barbantes. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les nouveaux outils d'aide à l'écriture. Il y a un correcteur grammatical complètement revu, détection des répétitions, du jargon, des biais de langage, hein, par exemple les expressions qui pourraient blesser ou quand on féminise pas assez certains mots. D'ailleurs, il se contente plus de signaler simplement le problème, il suggère carrément une phrase de remplacement. Alors ça a été annoncé hier soir, hein, donc pour le moment c'est uniquement en anglais, mais on a hâte de voir ce que ça donne en français, notamment ce nouveau correcteur grammatical, parce que jusqu'ici, il n'a pas vraiment brillé par sa fiabilité.
Merci beaucoup Anis Mbida, on verra ce que ça donne pour la suite justement. Vous êtes sur Europe 1, il est 7h20.
Europe 1.
Le salon de l'automobile de Paris, le mondial de l'auto, est annulé. Au-delà de ce mondial, ces grands salons ne plaisent plus au public. On va en parler dans Le Monde Bouge avec Axel de Tarlet avant l'édito radio ouverte de Virginie Fulpin. A tout de suite.
Matinale d'Europe 1, Mathieu Belliard.
Et ils sont là, tous les deux, Virginie Fulpin pour l'édito radio ouverte dans un instant. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Et Axel de Tarlet, Le Monde Bouge. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Le mondial de l'auto à Paris, qui devait se tenir en octobre, est annulé. Au-delà de la crise provoquée par le coronavirus, ces grands salons, Axel, ont moins la cote auprès du public.
Oui, d'abord, alors effectivement, le secteur automobile est à l'arrêt en ce moment. Hein, donc toutes les dépenses non essentielles sont supprimées. Et c'est le cas du Salon de l'Automobile de Paris, qui est donc annulé, comme d'autres salons, hein, celui de Genève ou de Détroit en juin prochain. D'ailleurs, tout un symbole, vous savez que l'emplacement où devait se tenir le Salon de Détroit aux États-Unis est aujourd'hui occupé par un hôpital provisoire qui accueille des malades du virus.
Axel de Tarlet, en même temps, le Salon de Paris devait se tenir en octobre prochain. À ce moment-là, on peut espérer que l'activité aura repris, que nous achèterons à nouveau des voitures.
Alors c'est vrai, et les constructeurs veulent même croire qu'après la disette, les ventes automobiles repartiront en flèche à la rentrée. Hein, car la voiture, rappelons-le, reste un besoin vital pour 80% des Français qui en ont besoin tous les jours hein, pour aller travailler. Et donc, en septembre, les constructeurs espèrent une reprise musclée. Il faudra donc avoir du stock et avoir une politique commerciale dynamique, vous voyez, être visible. Mais on en arrive au deuxième point. Ces grands salons, effectivement, comme celui de l'automobile, mais c'est vrai aussi pour le salon du livre, hein. Ces grands salons sont jugés comme étant moins efficaces qu'avant pour toucher le grand public. Pourquoi ? Eh bien parce que le marketing a énormément évolué. Désormais, on montre les nouveautés, les nouvelles voitures, aux quatre coins du territoire, dans de superbes concessions étincelantes, qu'on appelle d'ailleurs des showrooms, vous voyez, tout est dit, on parle d'un show, d'un spectacle, vous voyez. Aujourd'hui, le marketing est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus envahissant. En clair, c'est la voiture qui vient à vous et ça n'est plus à vous de vous déplacer à Paris, porte de Versailles et de payer 18 euros l'entrée pour avoir le droit de voir les toutes dernières nouveautés.
Merci Axel de Tarlet, le monde bouge, il change. Axel de Tarlet vous le raconte tous les matins à 7h20. Et à 7h24, nous retrouvons Virginie Fulpin pour l'édito Radio Ouverte. Virginie, vous regardez hein, tout ce qui se passe, ce qui se dit sur les réseaux sociaux en ce moment. Et ce matin, vous nous invitez à suivre la vie des soignants des services de réanimation sur les réseaux.
Ben oui, je ne sais même pas comment ils trouvent le temps et l'énergie pour faire ça. Mais plusieurs services de réanimation de différents hôpitaux ont maintenant des comptes Instagram pour nous faire partager leur quotidien. Vous, comme moi, j'imagine, on pense beaucoup à ces services en ce moment. Et avoir un témoignage direct de la façon dont les professionnels de santé vivent et se démènent en réanimation pour nous soigner, pour nous sauver dans des conditions particulièrement difficiles, ben je trouve ça assez rassurant. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder leurs photos et leurs textes. C'est très pédagogique hein, sur la façon dont ils travaillent. Par exemple, hier en fin d'après-midi, le service réanimation de la Pitié-Salpêtrière à Paris a posté une série de photos sur la préparation de l'intubation, en expliquant en quelques lignes que cette procédure consiste à endormir le patient et à introduire une canule de petite taille dans la trachée pour permettre la respiration avec un respirateur artificiel. Tout est donc millimétré et il faut une préparation maximale. Moi, franchement, je n'y connais rien en médecine et pourtant, j'arrive à comprendre le langage qu'ils emploient. Donc, je pense qu'on peut les remercier encore parce que ça nous permet d'appréhender ces services de réanimation avec un peu moins d'angoisse.
Pourtant, ces services ne cherchent pas uniquement à nous rassurer sur les réseaux.
Ah non, ils ne sont pas là pour nous dire que tout est sous contrôle, hein, mais c'est justement ça qui est intéressant. On plonge dans leur quotidien, sans phare, et parce que ce sont eux qui en parlent directement, ben ça nous donne un autre regard. Le service de réanimation de l'hôpital Georges Pompidou à Paris nous explique qu'effectivement, la majorité des lits de réanimation sont maintenant occupés par des patients positifs au Covid. Et il nous montre en photo que les salles de réveil ont été réaménagées pour héberger les autres malades. Ils le concèdent même sur leur compte Instagram. Les moyens sont limités, l'organisation totalement nouvelle, mais ils s'adaptent. Et ils nous montrent aussi les soignants qui prennent un café et un bol d'air sur le toit de l'hôpital, parce que les heures se multiplient et qu'il faut se ménager un peu aussi, parce que les patients arrivent de plus en plus fréquemment et que ça n'est pas fini. Et tous les services de réanimation dans leur story Instagram nous rappellent également l'essentiel. Restons chez nous. Et allons regarder les photos et les textes qu'ils postent. Je vous assure, ça n'est pas anxiogène, c'est même plutôt le contraire.
Merci Virginie Fulpin. Vous êtes d'accord ou pas? Vous écoutez, vous réagissez, vous partagez l'édito Radio Ouverte de Virginie Fulpin tous les matins, juste après 7h20. Bon réveil à toutes et à tous, il est 7h26. Europe 1. À suivre, le journal de 7h30, ce sera avec Jérôme Lacroix, la météo Laurent Cabrol et mon invité, la ministre espagnole des Affaires étrangères. À tout de suite.
Europe 1, Philippe Vandel.
Tout à l'heure dans Culture Média, Jérôme Anthony, l'animateur pour l'émission Les 20 chansons préférées des Français, c'est sur W9. Et pour l'émission culinaire Tous en cuisine, avec la star des cuisines, Cyril Lignac. Et puis le chanteur, Ben L'Enclosol, ça va swinguer.
Europe 1, Culture Média.
Alors, à tout à l'heure, 9h30 sur Europe 1.
Audible, raconte-moi une histoire.
Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande
pour
partie
grandir,
de l'ouest de...
Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière
Il
de
marcha
voir
dans la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers mots.
Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle.
Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert.
Mathieu Béliard.
Et 7h27 sur Europe 1, avant de retrouver Laurent Cabrol pour la météo. Un peu de musique.
Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser.
Pour vous annoncer, pardon, notre débat entre 9h et 9h30. Booba, le rappeur Booba, énorme star évidemment, que vous entendez peut-être à travers la chambre de vos enfants. Booba s'engage sur les réseaux sociaux et propose non pas de rapper dans sa cuisine, dans son appartement de Miami, mais de réaliser tout simplement une espèce d'émission pour les réseaux sociaux, avec des invités, avec des interviews et avec un mot d'ordre, restez chez vous. Il donne très peu d'interviews et je suis très content de vous le dire. À 9h, Booba sera en direct depuis Miami sur Europe 1 ce matin et nous poserons cette question. Face au coronavirus, vous attendez quoi des artistes? Venez participer à ces échanges, à ces débats. 3921 et le hashtag Radio Ouverte, le rôle des artistes pendant que nous sommes confinés dans la lutte contre le coronavirus. Peut-être que Booba a aussi une audience qui ne regarde pas les médias dits classiques. Nous en parlerons tout à l'heure entre 9h et 9h30. 7h28 sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo.
Et c'est un temps calme lorsque je regarde, j'observe pour vous, chers amis, l'état du ciel. Je m'aperçois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il n'y a pas de pluie annoncée, enfin en tout cas décrite pour l'instant. Un peu de pluie du côté de Biarritz, Saint-Sébastien. Tiens, il neige en Espagne, hein, du côté de Pampelune. Bon, c'est tout. Et beaucoup de vent. Alors le vent est indiqué, là, on le voit bien hein, sur nos cartes, 50-60 km/h. En fait, ce sera le temps de cette journée. C'est un temps ensoleillé, un temps calme, hormis le vent, bien sûr, qui va continuer à souffler durant la journée, qui va accentuer l'impression de froid. Donc, c'est un temps calme et ensoleillé avec quelques nuances. Sur le sud-ouest, dans le courant de la journée, surtout de la matinée, les nuages seront là, comme sur le Languedoc-Roussillon. Et puis, sur des quelques averses, sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Voilà, ce ne sont que des nuances que nous installons sur une carte de France, ma foi, qui s'annonce sous le soleil. Les températures maximales, alors qu'ils ne veulent pas dire grand-chose, hein, puisque ce sont des températures sous abri. 11 à Deauville, 12 à Clermont, 13 à Paris, 14 à Poitiers cet après-midi, 15 à Lyon, 16 à Bordeaux, 17 à Toulouse et 19 à Cahors. Et vous dire que ce matin, il fait entre moins 5 et plus 5 degrés. Alors ce matin, ça caille, ça caille.
Ça pique un peu.
Oui. Et demain, en fait, la douceur reviendra samedi et dimanche.
Ben voilà une bonne nouvelle pour terminer cette météo. Laurent Cabrol, merci beaucoup. Bonjour Jérôme Lacroix.
Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Pour les allergiques sévères, pour les gens qui ont de l'asthme, il faut vraiment bien prendre ces traitements. Comme d'habitude, voire on peut les augmenter. Donc il ne faut pas hésiter à en parler avec son médecin pour refaire le point.
Si vous êtes allergique, on vous rassure, ce matin, la majorité d'entre vous n'est pas plus fragile face au coronavirus. Les asthmatiques doivent être très prudents, précision dès le début du journal. Plus de 400 nouveaux décès à l'hôpital, hier 5000 malades en réanimation. Et si, pour désengorger les services, l'oxygénation se faisait à domicile, on vous raconte. Dans ce journal, 9 députés, pas un de plus pour la séance de questions au gouvernement du jour. Restrictions sanitaires obligent. Et puis, un témoignage, celui d'un urgentiste en Espagne qui tente de tenir le choc dans le deuxième pays le plus mortellement touché, où toutefois le virus semble tout doucement reculer. La situation en Espagne, justement, nous en parlerons avec votre invité après ce journal, Mathieu.
Arantxa González-Laya, ministre espagnole des Affaires étrangères, en direct sur Europe 1 dans une dizaine de minutes.
Europe 1, écoutez le monde changer.
En France, une personne sur trois est atteinte d'allergies, frênes, bouleaux au nord, cyprès au sud. Le printemps est en avance et les allergiques souffrent déjà.
Mais cette année, le coronavirus les inquiète. Certains craignent notamment une aggravation de leurs troubles respiratoires. Pour Europe 1, Ève Roger a notamment rencontré Sofiane, dont le quotidien est difficile.
Toutes les nuits, c'est le même rituel. Je prends un coup de ventoline, je me relève parce que j'arrive pas à respirer en position allongée. Je me recouche, je ne peux pas dormir à cause de ces allergies qui me font vraiment vivre un enfer pour respirer la nuit.
Difficile pour Sofiane de supporter les pollens en ce moment. Il est allergique à 9 types d'arbres et le confinement dans une maison qui donne sur un jardin n'arrange rien. Impossible pour lui de changer d'air. Et puis, il vit avec l'angoisse d'attraper le Covid-19.
Ça me fait peur parce que je me dis que si j'attrape le Covid-19, je sais pas comment je vais pouvoir respirer, parce qu'on entend beaucoup que parmi les symptômes, il y a des détresses respiratoires. Est-ce qu'il va falloir m'hospitaliser et que je vais finir en réanimation?
Mais pour le docteur Édouard Sève, vice-président du syndicat des allergologues, les allergiques ne doivent surtout pas paniquer.
La majorité des personnes allergiques ne sont pas plus fragiles. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des formes plus graves du Covid. Par contre, pour les allergiques sévères, pour les gens qui ont de l'asthme, il faut vraiment bien prendre ses traitements. Comme d'habitude, voire on peut les augmenter. Donc il ne faut pas hésiter à en parler avec son médecin pour refaire le point.
Bien prendre ses antihistaminiques et ses médicaments contre l'asthme, donc, ils ne présentent aucune contre-indication avec le risque de Covid-19.
418 personnes sont décédées en France des suites du Covid-19 ces 24 dernières heures à l'hôpital. C'est la plus forte augmentation quotidienne depuis le début de la crise. La barre des 3000 morts à l'hôpital est franchie, 3024 précisément.
Plus de 5000 malades sont en réanimation. La tension dans les hôpitaux reste très forte en Île-de-France, notamment comme cela se passe pour le Grand Est. Des patients devraient prochainement être transférés vers des régions moins en tension.
Pour désengorger les services, une autre solution peut-être, celle avancée ce matin dans le journal Libération par Martin Hirsch, directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris. L'oxygénation des patients à domicile, c'est envisagé. Ces malades seraient surveillés par des médecins traitants. Ça peut même être fait à distance.
Bonne idée, dit ce matin Philippe Elaïc, lui-même médecin généraliste.
C'est très encourageant parce que ça va réduire la stagnation de patients qui vont mieux et qui pourraient rentrer plus précocement. Nous, médecins généralistes, on se fait fort de les surveiller chez eux, de surveiller l'oxygénothérapie, si justement ça permet de soulager l'hôpital, justement. Donc nous, on peut faire ça à domicile assez facilement. L'oxygène doit être installé par des spécialistes de l'oxygène qui vont expliquer aux patients comment ça fonctionne et que le médecin, du coup, passera une fois pour voir si tout va bien. Mais après, ça peut se faire tout à fait par téléphone. Et je pense que si les patients ont le saturomètre, avec le saturomètre que l'on met au bout du doigt, eh bien, ça sera encore plus facile, justement, d'adapter ça à distance.
Des propos recueillis par Nicolas Fellman. Perte estimée, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe Aéroport de Paris, ce que dit ce matin sur Europe 1 Augustin de Romanet, PDG du groupe, invité à 6h40. Sous les effets de la crise sanitaire, Orly sera à l'arrêt à partir de ce soir minuit pour une durée indéterminée. Arrêt quasi total. Plus de vols commerciaux, seulement les vols d'État et les vols sanitaires ou déroutements d'urgence.
Emmanuel Macron près d'Angers ce matin à l'usine Colmi-Open, le plus gros des 4 producteurs français de masques qui tourne à plein régime. Le président entend montrer la mobilisation de l'industrie française qui doit répondre à la très forte demande. 40 millions de masques nécessaires par semaine pour le personnel soignant et les EHPAD, selon l'Élysée.
Singulière séance de questions au gouvernement. Attendue aujourd'hui, les bancs de l'Assemblée nationale seront déserts ou presque. Depuis le début du confinement, 3 députés par groupe pouvaient siéger. Les conditions se durcissent encore à partir d'aujourd'hui, Jean-Gabriel Bourgeois.
ils ne seront que 9, un seul député par groupe parlementaire et un représentant des non-inscrits. Réduction drastique d'effectifs aussi pour les personnels de l'Assemblée, une quinzaine de fonctionnaires, pas plus. Le député du Rassemblement national, Ludovic Pajot, posera sa question dans un hémicycle quasiment désert.
Moins il y a de députés dans l'hémicycle, moins il y a de risques de propagation du virus. On demande aux Français de se confiner, de ne pas sortir de chez eux. Donc il serait anormal de réunir tous les députés.
En votant l'état d'urgence sanitaire, les députés ont accordé des pouvoirs exceptionnels au gouvernement. La contrepartie, ce sont les questions d'actualité, martèle-t-on dans l'opposition. Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste.
Faire fonctionner les institutions, même dans un temps de crise comme celui que nous connaissons, est très important pour la démocratie. Si on passe en visioconférence, bien entendu, il y aura plus de députés qui pourront poser leurs questions et avoir une réponse en direct de la part du gouvernement.
Des solutions techniques sont à l'étude pour tenir ces séances à distance, mais rien n'est acté à ce stade. Un député LR ironise, on a du mal à imaginer un parlementaire dans sa cuisine en train de poser une question au ministre.
Environ 2500 marchés alimentaires vont rouvrir cette semaine en France sous strictes conditions sanitaires. Ça représente un quart du total, principalement dans les petites villes, mais pas seulement, également à Lille, Clermont-Ferrand, Grenoble. Pas de dérogation pour l'heure pour Paris. Cela doit permettre aux producteurs, fromagers ou autres maraîchers d'écouler leurs stocks.
L'économie française toujours au ralenti. Illustration, 500 000 entreprises ont demandé à bénéficier d'un report de charges sociales en mars. Annonce du ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, ce matin dans le Figaro.
Aux États-Unis, la barre des 3000 morts est franchie. New York, principal foyer, voit l'arrivée d'un navire hôpital pour désengorger les services. L'Italie reste le pays le plus mortellement touché, plus de 11 000 morts.
Mais l'épidémie semble commencer doucement à reculer, comme en Espagne. Plus de 7 000 morts, mais le nombre de décès quotidiens est en baisse.
Le docteur Félix Del Oro, médecin urgentiste en Andalousie, confirme le recul, même si la situation reste très compliquée. Il est au micro d'Henri de la Guérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne.
Nous, en Espagne, on a le taux de personnel sanitaire infecté le plus haut de toute l'Europe. Ce n'est pas tolérable d'avoir des personnes qui travaillent avec des matériels qui ne sont pas appropriés. En fait, il y a des hôpitaux où on est arrivé à s'habiller avec des sacs à poubelle. Cependant, l'impression, c'est que les choses commencent à améliorer un tout petit peu. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de faire pendant tous ces jours de confinement, ça commence, avec toutes les précautions qu'on doit prendre, ça commence à fonctionner. C'est une évolution très lente. Bien sûr, ça nous donne un petit peu d'espoir et ça nous aide à continuer à travailler. Il faut continuer. Peut-être que ça signifie que nous sommes dans la bonne voie, mais encore, il y a beaucoup de choses à faire.
Et tout à l'heure, à 7h40, Mathieu, vous recevrez Arantxa González, ministre espagnol des Affaires étrangères.
Oui, je poserai ces questions, pardonnez-moi, mais la question de l'urgence espagnole, c'est la priorité avec cette situation qui semble légèrement s'améliorer. Mais la question européenne aussi, quelle solidarité en Europe aujourd'hui? Ces questions dans deux minutes sur Europe 1.
Eux n'ont manifestement pas du tout respecté les mesures de confinement et de restrictions de déplacement. Aux Pays-Bas, des voleurs ont dérobé dans un musée fermé au public un très cher tableau signé Vincent Van Gogh.
Isabelle Horry, vous nous racontez ce larcin bien singulier. Les malfaiteurs avaient bien préparé leur coup?
Oui, les voleurs savaient très bien ce qu'ils venaient chercher. Ils n'ont emporté qu'une seule toile dans l'exposition du musée Singer, un musée situé à une trentaine de kilomètres d'Amsterdam. Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps avait été prêté par une institution du nord des Pays-Bas. C'était le seul tableau de Van Gogh encore accroché dans les salles, malgré la fermeture du musée depuis deux semaines. Cette peinture de petit format, une femme dans un jardin au ton vert brun, vaudrait 1,5 million d'euros, selon un expert néerlandais. Le directeur du Singer a fait une conférence de presse retransmise sur Internet. Yann Rudolph Delorme est furieux.
C'est un vol terrible pour le musée, mais aussi pour nous tous, car l'art est fait pour être vu, pour être partagé, pour inspirer et pour apporter du réconfort, en particulier dans ces temps difficiles.
Les voleurs ont forcé la porte vitrée de l'entrée un peu après 3 heures du matin, dans la nuit de dimanche à lundi. L'alarme anti-vol s'est bien déclenchée, mais la police est arrivée trop tard pour les intercepter.
Les obsèques de Michel Hidalgo, célébré aujourd'hui, l'ancien sélectionneur des Bleus du foot, champion d'Europe 84, décédé la semaine dernière à 87 ans, sans lien avec le coronavirus. Il met dans une intimité qui respecte les règles sanitaires du moment. Sa famille annonce qu'il portera un maillot, un survêtement de l'Olympique de Marseille pour ce dernier voyage, l'OM, dont il a été dirigeant, club d'une ville très chère à son cœur, où il vivait depuis près de 30 ans.
Merci Jérôme Lacroix. C'était le journal de 7h30 à 8h. Nous retrouverons François Geffrier tout à l'heure sur Europe 1. Bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h39. Et ce matin, ne manquez pas le rendez-vous, je vous le disais, à 8h15, Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, au micro de Sonia Mabrouk. Dans la foulée, il répondra à vos questions, à vous, en direct. Des questions sur la Corse, bien sûr, le 3921 et le hashtag Radio Ouverte. Mais également, des questions, finalement, sur la répartition de l'effort national dans les territoires. Vous n'hésitez pas, vous intervenez, vous témoignez en direct sur Europe 1 ce matin. À partir de 9h, comment les artistes gèrent, partagent leur confinement? Quel est leur rôle, finalement, aussi, face au coronavirus? Vous nous appelez au 3921, invité exceptionnel ce matin, le rappeur Booba. Mais pour l'heure, et comme tous les jours, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1 et l'impact du coronavirus sur notre économie, sur nos relations à l'international. Je suis en ligne ce matin avec Arantxa González Laya, ministre espagnole des Affaires étrangères. Bonjour Arantxa González Laya.
Bonjour.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce matin. Le coronavirus et ses effets dramatiques en Espagne. La solidarité européenne aussi. D'abord, l'Espagne est le deuxième pays le plus endeuillé par le Covid-19 après l'Italie. Plus de 7000 morts, des hôpitaux exsangues, mais ce matin des signes d'amélioration. Depuis 4 jours, le rythme de progression des cas positifs ralentit. Le nombre de décès quotidiens en baisse depuis hier. Dans cette crise, est-ce que vous pouvez dire que l'Espagne a passé le pic de l'épidémie? Est-ce que le pire est passé?
Bon, on doit toujours rester très prudent. C'est une maladie qu'on ne connaît pas très bien, mais c'est sûr que les efforts que nous avons faits, les mesures que nous avons prises il y a deux semaines, des confinements des 47 millions d'Espagnols chez eux, commencent à donner des résultats. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde. C'est pourquoi nous avons pris des mesures supplémentaires au début de cette semaine, réduction de l'activité économique non essentielle pour réduire 10 points de mobilité sociale et assurer qu'il y ait une vraie réduction de cette courbe qu'on regarde.
Oui, depuis hier, les salariés qui ne peuvent pas faire de télétravail doivent se mettre obligatoirement en congé et devront récupérer plus tard ces jours s'ils ne travaillent pas dans les secteurs essentiels de la santé, l'alimentation ou l'énergie notamment. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce choc, cette sidération en Espagne face au coronavirus? De l'impréparation des hôpitaux, un système de santé en manque de moyens ou c'est simplement le virus qui était trop fort?
À mon avis, c'est un virus qui est trop fort, qu'on connaît mal et qu'on a du mal à traiter. Et ce n'est pas que l'Espagne soit une exception. Si je regarde la planète, on commence à avoir des exceptions un peu partout. C'est probablement que l'Espagne a une longueur d'avance de 2-3 semaines par rapport aux autres membres de la famille européenne et un peu plus de longueur d'avance par rapport aux États-Unis. Où on commence
ce qui se passe en Espagne et en Italie, pensons à l'Italie aussi, ce qui se passe en Espagne et en Italie aujourd'hui, pour vous, c'est ce qui attend le reste de l'Union européenne?
En espérant que d'autres auront pu bénéficier de ce que nous avons pris en gérant cette pandémie nous-mêmes. Donc j'espère que les autres qui vont suivre verront quelque part l'impact des mesures que nous avons prises et pourront les émuler.
Je vais citer Anthony Castells, qui est directeur médical de l'hôpital clinique de Barcelone. La situation se complique jour après jour, dit-il sur la radio publique espagnole. On a commencé à rationaliser les ressources sur la base des possibilités de survie des patients. Je ne sais pas si c'est propre à l'Espagne ou si nous allons connaître ça en France. Est-ce qu'en Espagne, on trie les patients? Est-ce qu'on laisse, oui ou non, des patients âgés de côté pour se concentrer sur d'autres?
Non, pas du tout.
C'est ce que disent les médecins, pardonnez-moi. Hein. On entend des témoignages sur les réseaux sociaux, des personnels.
Il peut toujours y avoir un cas ponctuel dans un hôpital où il y a un problème ponctuel, mais ce n'est pas comme si dans l'ensemble du pays, on avait une manque des moyens généralisés, une manque d'équipement médical généralisé, une manque de personnel médical généralisé. Ce n'est pas le cas. Et la preuve, c'est qu'on va commencer à réduire justement à cause des résultats des soins médicaux et des équipements qu'on a achetés. Mais c'est vrai qu'on est dans un marché où il y a une pénurie généralisée. Les problèmes de l'accès aux masques, de l'accès aux médicaments, de l'accès aux respirateurs, ce n'est pas en Espagne seulement ou en Italie. C'est aujourd'hui en France, en Allemagne, aux États-Unis, c'est partout. Parce que c'est une pandémie.
D'accord.
C'est un problème de santé dans le monde. C'est ça qu'il faut comprendre.
Je voudrais citer votre Premier ministre, Pedro Sanchez. Tout ce que je peux offrir, c'est du sacrifice, de la résistance et un moral de victoire. Aujourd'hui, que nous disent les Espagnols? Vous avez ce matin l'oreille des Français, des dirigeants français certainement, qui écoutent Europe 1. Quel conseil est-ce que vous donnez aux dirigeants français?
Aux dirigeants français, il faut ancrer les décisions toujours sur la science, sur les avis des scientifiques, les avis des experts, qui sont eux qui peuvent mieux nous conseiller sur comment sortir. Et aux citoyens, restez chez vous, ne sortez pas, évitez les contacts physiques, parce que c'est ça le seul moyen aujourd'hui qu'on n'a pas un vaccin pour traiter les coronavirus. C'est ça le meilleur moyen d'éviter la propagation de la maladie. Surtout, restez calme, obéir aux conseils, aux avis, aux instructions, grincer les dents et sortir, parce qu'on va s'en sortir, on va tous s'en sortir, mais on va passer par des moments difficiles.
Parlons d'Europe, Arantxa González-Laya. Aux accusations du ministre des Finances hollandais qui vous reprochait à vous, l'Espagne, à l'Italie, de ne pas avoir mis assez d'argent de côté, hein, je résume, pour faire face à une telle crise sanitaire. Hier soir, cette dépêche, l'Italie exhorte l'UE à être à la hauteur. Vous, votre réponse était cinglante, vous-même. Hein, on est tous dans le même paquebot, en gros. On n'a pas le temps de se disputer sur des passagers de première et deuxième classe. Il y a une Europe à plusieurs classes, à plusieurs vitesses.
S'il y avait certains qui pensaient qu'il y avait une Europe à plusieurs classes, ils vont découvrir que c'est pas le cas. On est face à une pandémie. Ce n'est pas 2008 aujourd'hui, c'est 2020. On a un problème qui nous touche tous. On va tous être impactés par les coronavirus. On va tous devoir faire des dépenses gigantesques pour maintenir nos économies en hibernation pendant la durée de cette maladie. On va tous voir nos caisses s'est vidé un tout petit peu.
Mais pardonnez-moi, je vais repréciser ma question, parce que c'est pas celle-là presque la question, Arantxa González-Laya. Parce qu'aujourd'hui, on a bien compris, tous les moyens seront dépensés pour lutter contre le coronavirus, et là, peut-être qu'on la voit un peu mieux, la solidarité européenne. Mais la suite, quand on aura tous des déficits abyssaux, est-ce que l'Europe va aider l'Italie et l'Espagne? Est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver à nouveau dans ce que vous avez connu en 2008?
Il y a des pièces qui sont déjà en place. Donc, il y a une réponse de la Banque Centrale Européenne qui a été très positive. Il y a eu une réponse de la Commission Européenne avec des fonds structurels supplémentaires qui vont dans la bonne direction. Maintenant, il nous faut une réponse fiscale. Et c'est là où il faut faire
un impôt européen.
De solidarité. Et il faut faire plus de solidarité européenne, mais pas comme de la charité. Ce n'est pas
non,
la charité.
Un impôt européen.
Peut-être, on a déjà des impôts européens. Peut-être il faudrait améliorer un peu plus la trésorerie européenne. Peut-être faudrait-il un budget européen un peu plus conséquent, qui pourrait aider d'une manière plus conséquente la sortie de cette crise.
Oui, mais alors, parce que la question qui peut se poser, c'est celle des moyens, finalement. Et on pourrait s'interroger de manière beaucoup plus simple. Pourquoi est-ce que la France achemine des masques depuis la Chine? Pourquoi est-ce que l'Italie doit en commander, l'Espagne? Pourquoi est-ce qu'on ne commande pas au nom de l'Europe?
On a commandé au nom de l'Europe. La Commission européenne vient de faire une commande énorme d'équipements sanitaires. Elle l'a déjà fait, mais entre-temps, il y a eu une urgence. Donc nous sommes tous jetés sur les marchés internationaux, pas simplement sur la Chine. Il y a aussi d'autres pays qui produisent tous ces matériaux dont on a besoin aujourd'hui d'une manière très conséquente.
Vous êtes optimiste, sincèrement. Vous avez fait, je le dis pour nos auditeurs, votre carrière dans les institutions européennes. Aujourd'hui, il y a une question clé qui va se poser à l'issue de cette crise. Est-ce que l'Europe, ce sont des pays qui lient davantage leur destin? Est-ce qu'il y a une véritable solidarité? Même Jacques Delors, très âgé et silencieux, s'est exprimé, a exprimé son inquiétude. Vous êtes optimiste sur la suite de l'Union européenne?
Moi, je suis activiste, comme disait justement Jacques Delors. Il faut rester activiste. Il faut retourner aux sources. Il faut toujours se souvenir des conseils qui nous avaient donnés Schuman et Monnet, père fondateur de l'Union européenne. Petit pas, toujours en avant, créant des solidarités d'effet. C'est aujourd'hui les grands moments de la solidarité européenne. C'est de ça qu'il s'agit si on veut peser dans un monde dans les futurs où il y aura des géants comme la Chine et les États-Unis qui seront beaucoup plus pressants. Si l'Europe est pesée, il faut aujourd'hui plus de solidarité. C'est aussi simple que ça.
Merci. Merci beaucoup d'avoir choisi Europe 1 ce matin. Interview dans un français parfait. Je veux le saluer aussi. C'est ça l'Europe. Aussi Arantxa González-Laya, ministre espagnole des Affaires étrangères. J'entends que vous appelez pour la suite à une hausse du budget de l'Union européenne, si je comprends bien, une meilleure trésorerie avec peut-être de nouveaux impôts. On suivra évidemment. Arantxa González-Laya, ministre espagnole des Affaires étrangères, était mon invité. 7h49.
Europe 1.
À suivre la culture, c'est Périscope avec Jean-Philippe Ballas, l'opinion de Nicolas Bétou avant le journal de 8h. Bon réveil sur Europe 1.
Ils ont oublié une page dans la présentation. La réunion commence dans 10 minutes et je n'ai pas accès à ce fichier. Ah, un mail d'Orange Business Service. Travailler ensemble avec Working Together. Alors, possibilité de travailler à plusieurs sur le même fichier, visioconférence pour se réunir à distance, envoi de pièces jointes de plus de 20 mégas, c'est ce qu'il me faut. Il y a aussi une formation et un accompagnement de tous les utilisateurs. C'est top. Working Together, c'est la solution pour mieux travailler ensemble.
Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.
TF1.
Ce soir, Prodigal Son, votre nouvelle série.
Salut, je m'appelle Malcolm Bright. Je suis profiler.
C'est méchamment tordu comme scène de crime.
C'est ma spécialité.
Malcolm est le meilleur profiler de New York. Signe particulier, un père serial killer.
On est pareil, toi et moi.
Prodigal Son, votre nouvelle série. Ce soir à 21h05 sur TF1, en association avec Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est un rendez-vous que vous avez tous les matins, le rendez-vous avec Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
L'opinion de Nicolas Bétou, c'est votre édito dans un tout petit instant. Mais d'abord, Périscope, la culture à 360 degrés avec vous, Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Il appartient à cette race à part, la race des écrivains aventuriers. Ce matin, c'est Patrice Franceschi qui nous raconte son confinement.
Oui, Patrice Franceschi, auteur prolifique, qui avait sorti un livre l'an dernier intitulé « Éthique du samouraï moderne ». Petit manuel de combat pour tant de désarroi. Vous me direz, ça correspond un peu à la période. Alors nous avons demandé conseil au samouraï Franceschi. Bonjour Patrice Franceschi.
Oui, bonjour.
Un écrivain aventurier, ça ressemble à quoi en période de confinement ?
Alors, aventurier peut-être, écrivain sans doute, et je passe une bonne partie de ma vie de toute façon confiné pour écrire mes livres. Il m'arrive très fréquemment de m'arrêter, de m'enfermer un mois, deux mois, trois mois, voire plus, pour écrire un roman, des nouvelles, un essai. Donc finalement, ce qui m'arrive là est quelque chose auquel je me contrains régulièrement. Alors évidemment, ce n'est pas la date que j'avais prévue, d'autant plus que je venais de passer presque 7 semaines d'isolement, pour le coup volontaire, dans les terres australes et antarctiques françaises en tant qu'écrivain de marine sur la frégate Nivose, et que je suis passé de l'isolement volontaire au confinement obligatoire. Mais hormis cette ironie des choses, en ce qui me concerne, je suis quelqu'un qui n'est pas à plaindre.
Alors, vous qui êtes habitué à ces périodes de confinement, est-ce que c'est propice à cette fameuse réflexion sur soi-même ?
Bien sûr qu'une épreuve de confinement et une épreuve de retour sur soi, c'est tout ou rien, selon les gens et selon ce qu'on veut en faire. Ça peut être un abîme terrible, et que l'on va combler par des jeux vidéo toute la journée, ou ça peut être au contraire, effectivement, l'occasion de se dire, attention, profitons de tout cela pour remettre les choses au point, revenir à l'intérieur de soi, dans sa forteresse intérieure, avec la lecture, avec le dialogue avec les autres, les plus proches. Bernanos disait que le monde moderne allait être une vaste conspiration contre la vie intérieure des hommes. Il ne s'était pas trompé, d'un seul coup, la vie moderne s'est arrêtée. C'est pour la nature quelque chose d'extraordinaire et pour chaque individu, franchement, l'occasion de se ressourcer en lui-même.
Ça ressemble à quoi une journée de Patrice Franceschi en confinement ? Vous êtes très organisé ?
Oui, écoutez, je pense que soit on se laisse aller, et vous verrez que ceux qui le font, malheureusement, au bout d'un moment, on ne se lave plus, on reste en robe de chambre toute la journée ou je ne sais quoi, ou bien, pour être fécond, surtout quand on est écrivain, eh bien on s'organise, on se lève tôt, en général vers 6-7 heures le matin. Et je me mets à écrire tout de suite. Vers 14-15 heures, je vais faire mon footing. Comme tout le monde, on a le droit à 1 km autour de la maison. Très bien, j'habite en province. Et ensuite, je fais le sport, en famille, à l'intérieur, avec les enfants et tout. Et ensuite, un petit peu de lecture le soir. Tout va très bien.
Est-ce que vous avez des conseils de lecture, de films en période de confinement ?
Alors, un livre que j'avais lu à 15 ans, Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis. Voilà, c'est l'un des plus grands livres qui ait été écrit. Un livre merveilleux sur, au fond, Le sens et la valeur de la vie, Alexis Zorba, qui avait donné un film tout à fait remarquable et qui correspondait bien au livre, qui était Zorba le Grec. Et c'est pas parce que j'ai écrit Éthique du samouraï moderne chez Grasset que je dis ça, mais il y a Les Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa, que je pense que je vais regarder aujourd'hui ou demain. Il faut voir la version longue, quelque chose d'une immense humanité et qui nous dit tout du sens du tragique de la vie. Voilà, pour le film.
Merci Patrice Franceschi.
De rien. Bonne journée. Au revoir.
Merci Jean-Philippe Ballas, Périscope et ses échanges finalement sur le confinement en ce moment, tous les matins sur Europe 1 à 7h50. Bon réveil. C'est l'heure de l'opinion de Nicolas Bétou. Nicolas, dans sa guerre contre l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a encore perdu un peu du soutien des Français.
Et oui, tous les sondages continuent à mettre en valeur ce double phénomène qu'on a déjà évoqué ensemble, Mathieu. La cote de popularité personnelle d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe est au plus haut depuis le début du quinquennat, mais la confiance dans leur gestion de la crise continue à décrocher. Bon, à vrai dire, ce n'est pas très étonnant. Cette cote de confiance est en partie indexée sur la disponibilité des masques et des tests et sur le nombre de morts. Tant que ce chiffre macabre augmentera, tant que le pic de l'épidémie ne sera pas en vue, les inquiétudes de la population vont rester considérables.
Plusieurs sondages mettent également en avant les doutes des Français sur la sincérité du gouvernement.
Oui, et c'est beaucoup plus préoccupant. Une étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès montre par exemple qu'un quart des Français pensent que le virus a été fabriqué artificiellement en Chine. Certains disent qu'il a échappé à ses créateurs, d'autres pensent carrément que ce virus a été diffusé intentionnellement. Conséquence, plus d'un Français sur trois est certain que le gouvernement leur cache des choses, leur ment volontairement. Et c'est parmi les électeurs du Rassemblement national que cette proportion est la plus importante. Marine Le Pen s'en sert d'ailleurs pour affaiblir Emmanuel Macron. C'est simple, elle accuse le gouvernement de mentir sur, je cite, « absolument tout sans aucune exception ». Quant à l'origine du virus, eh bien, elle explique qu'il n'y a pas de raison de ne pas avoir de doute sur ce qui s'est passé en Chine et que c'est une question de bon sens.
Bon, une fois de plus, on se rend compte qu'on est loin de l'Union nationale.
Et oui, c'est l'union impossible. À plusieurs reprises, un mouvement de cohésion nationale face au coronavirus s'est pourtant esquissé, mais il n'a jamais tenu que quelques heures. Depuis deux jours, plusieurs personnalités de droite et de gauche, Xavier Bertrand, Olivier Faure, François Bayrou, ont proposé de renvoyer à l'après-crise le bilan du travail gouvernemental, mais il se trouve toujours quelqu'un pour refuser ce genre de trêve. Et ce quelqu'un, à chaque fois, c'est Marine Le Pen.
Et ça vous paraît très étonnant? Je veux dire, il y a des exemples chez nous d'Union nationale?
Eh bien, hormis les périodes de guerre, je veux dire de vraie guerre, non, ça ne tient jamais. Même les attentats, qui sont une autre forme de guerre, n'ont suscité d'Union nationale que pendant un temps. Et pour ce qui est de l'indulgence des politiques entre eux, de leur retenue, il faut toujours garder en mémoire ce que Jacques Chirac avait dit après le suicide de Pierre Bérégovoy. C'était il y a plus de 25 ans, et la mort de l'ancien Premier ministre avait provoqué une onde de choc absolument considérable. Et certains avaient expliqué que la politique ne serait alors jamais plus comme avant, ce à quoi Jacques Chirac avait sèchement répondu qu'évidemment, ça ne tiendrait que l'espace d'un instant. C'est lui qui avait eu raison, et c'est lui qui, aujourd'hui encore, aurait raison.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins. C'est sur Europe 1, bien sûr, et c'est juste avant le journal de 8h. A tout de suite. La météo, les infos, et j'allais oublier de vous le redire. Inscrivez-vous maintenant. Hein. C'est maintenant qu'il faut appeler le 3921, envoyer un message sur le hashtag Radio Ouverte pour poser vos questions, pour échanger avec Jean-Guy Talamoni, qui sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15, mais qui va rester sur Europe 1 avec vous. 3921, le hashtag Radio Ouverte. N'hésitez surtout pas. À tout de suite.
Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Audible, raconte-moi une histoire.
Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande
partie
de l'ouest.
Il suffit parfois de changer de point de vue.
Notre manière
Il
de
marcha
voir
dans la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers mots.
Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle.
Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert.
À 7h59, nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo.
Et le soleil va veiller sur nous aujourd'hui. Il va entrer dans nos maisons. Il faut dire que... Écoutez bien le temps d'aujourd'hui, car ce sera pratiquement le même demain. Il faut dire que le soleil sera présent sur les deux tiers du pays. Nous aurons quelques éclaircies un petit peu plus disputées sur tout le sud-ouest, le Languedoc et le Roussillon. Des averses sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Et sur les côtes de la Manche, un petit passage nuageux totalement éphémère. Mais dans l'ensemble, ce sera quand même une journée très ensoleillée avec du vent qui va rafraîchir l'atmosphère. Un vent de 50 à 60 km/h qui vient du nord-est et qui est donc très frais. C'est une bise... qui va souffler sur des températures de 12 à 17 degrés sous abri. Ça veut dire que, bah, comme on ne sortira pas, c'est pas trop grave, mais enfin, il fera frais dehors. Et ce matin, il fait très froid, entre moins 5 et plus 5 degrés.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol, pour la météo. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Soyez les bienvenus sur Europe 1. Bon réveil.